7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est diplomate et ancienne ambassadeure de France aux États-Unis.
Oui, et quel diplomate. Bonjour Gérard Araud.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir ce matin sur France Inter. Vous avez été ambassadeur de France en Israël, aux Nations Unies, aux États-Unis, des postes prestigieux que vous racontez dans vos mémoires, Passeport diplomatique chez Grasset, un récit passionnant et personnel de vos 37 années passées au Quai d'Orsay. Vous avez pris votre retraite il y a 6 mois. Parmi ces années, Gérard Araud, il y a 2003 et la décision de Jacques Chirac de dire non à la guerre en Irak. Sur le coup, vous n'étiez pas d'accord avec le président, vous le racontez. Vous auriez espéré que la France entre en guerre aux côtés des États-Unis. Rétrospectivement, j'avais tort, écrivez-vous. C'est à Jacques Chirac que revient l'honneur d'avoir fait un autre choix. Le non à l'Irak, c'est ce que vous retenez de Jacques Chirac ?
Oui, tout d'abord, je n'étais pas en faveur d'une intervention française dans cette invasion, mais je pensais que la France devait plutôt être neutre, rester sur le bord du chemin, comme je le dis, plutôt que de s'engager dans une controverse avec les États-Unis. Rétrospectivement, le nom de Jacques Chirac était un nom historique. Il représentait vraiment la voix de la France, la voix de la communauté internationale face à ce qui était une aventure absurde, criminelle, et dont on a vu les conséquences géopolitiques désastreuses.
Vous étiez au Quai d'Orsay pendant ces 12 années au pouvoir de Chirac. Quel président était-il, si vous le comparez aux autres que vous avez connus, à Mitterrand, puis à Sarkozy, Hollande et enfin Emmanuel Macron ?
D'abord, d'un point de vue purement fonctionnaire, c'était l'être le plus courtois du monde. Et ça, ce n'est pas peu de dire hein, pour des hauts fonctionnaires, parce que ce n'est pas toujours le cas des présidents et des ministres. Moi, mon souvenir est un souvenir personnel. J'étais par hasard dans son bureau le jour où l'on a annoncé la mort de Rafik Hariri. D'abord, c'était
le premier ministre libanais,
le 14 février 2005. Et j'ai vu immédiatement les larmes aux yeux. Il était dans un entretien, c'est pour ça que j'étais dans son bureau, avec un autre chef d'État. Et pendant une heure, il a attendu les dernières nouvelles. Lorsqu'il a appris qu'il était mort, il a mis fin à l'entretien. Et j'ai vraiment senti à quel point il était bouleversé. C'était un vrai homme.
Revenons à vous à présent. Vous êtes aujourd'hui considéré comme ce que la diplomatie française a produit de meilleur, une certaine idée de l'esprit français, mais ce n'était pas gagné d'avance, si j'ose dire. Vous racontez que la diplomatie n'était pas du tout une vocation chez vous. Après Polytechnique, après Sciences Po, après l'ENA, vous écrivez « Je suis devenu diplomate par désir d'exil ». Pourquoi l'exil ? Qu'est-ce que vous avez voulu fuir ?
On veut toujours se fuir soi-même. J'étais malheureux dans ma vie privée. Depuis l'âge de 12 ans, j'avais découvert dans la province catholique française que j'étais homosexuel, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Et donc voilà, c'était un moment plutôt de malheur personnel. Je pouvais devenir diplomate, ça me semblait une manière élégante et confortable, il faut bien dire, de fuir le monde un peu étroit de la France de l'époque.
C'était pas une vocation, mais vous avez fini par l'aimer, ce métier, cet étrange métier, comme vous racontez.
Oui, j'ai fini évidemment par l'aimer. D'abord, j'aime bien vivre à l'étranger. Je suis passionnément français et j'adore voir mon pays de l'extérieur.
Mais qu'est-ce qu'on voit quand on le regarde de l'extérieur ?
Quand on voit, d'abord, on voit des qualités que les Français ne voient pas et des défauts que les Français ne voient pas. Et on se rend compte aussi à quel point notre pays est aimé à l'étranger. Souvent, je disais, parce que vous savez, je suis un peu provocateur, je disais à mes amis américains, mais comment se fait-il que vous nous aimiez alors que nous sommes insupportables? Et voilà, on nous aime, nous existons dans le monde comme étant une voie différente. Et ça, il faut évidemment le garder.
En 37 ans, vous avez vécu les grandes mutations de la fonction de diplomate, la démocratisation du recrutement, la disparition des grandes dynasties de diplomates. Vous dites les particules se font rares aujourd'hui. Et puis l'arrivée des réseaux sociaux. Vous avez appris à vous en servir. Vous êtes assez vite devenu une star de Twitter, parce que vous êtes provocateur, vous le dites, et il suffit de lire votre fil Twitter. Vous avez assumé de rompre avec votre devoir de réserve à plusieurs moments, jusqu'à l'erreur. L'erreur, c'était le soir de l'élection de Donald Trump, où vous avez tweeté 2 tweets, dont un monde s'effondre devant nos yeux. Vous avez dû supprimer le tweet, mais c'était trop tard. Qu'est-ce que Twitter a changé pour les diplomates ?
C'est une bonne question. Vous savez, c'est pas de ma génération. Hein. C'est le Quai d'Orsay, qui d'ailleurs après a dû le regretter, qui m'a donné l'ordre de tweeter parce que mes collègues américains et britanniques tweetaient. Donc je me suis mis à tweeter, mais il n'y avait pas de modèle à suivre. Et donc j'ai essayé de créer mon propre compte en tenant naturellement. Parce que j'étais aux États-Unis. Si j'avais été en Chine, j'aurais tweeté sur le château de Versailles. Là, j'étais aux États-Unis et les journalistes américains, vos collègues américains, on pense qu'ils prennent à peu près 70% de leur information sur les comptes sociaux. Donc il fallait exister sur les comptes sociaux. Et pour exister sur les comptes sociaux...
Ah bah vous avez existé, si j'ose dire.
J'ai existé. Vous pouvez pas simplement dire la France est une puissance d'équilibre et de paix. Là, vous aurez pas beaucoup de followers. Donc il faut savoir franchir les lignes habituelles de la diplomatie tout en restant diplomate. Cela étant, le fameux tweet, le jour donc de l'élection de Donald Trump, n'était pas une critique de Trump. Je disais, après Brexit, après Trump, un monde s'effondre. C'est-à-dire, je découvrais ce que tout le monde a découvert, que la crise populiste, eh bien, était une crise qui traversait les démocraties occidentales. Donc, ce n'était plus un accident.
Alors justement, vous dites avoir assisté, interloqué à la mort d'un monde, celui qui était régi par la superpuissance américaine, convaincu de la supériorité de ses valeurs occidentales. Avec l'élection de Trump, l'Occident doutait, écrivez-vous. Mais le doute ouvre à la chute de l'Occident n'a-t-elle pas commencé avant, sous Obama notamment, et son isolationnisme, et notamment sur la Syrie? Vous avez beaucoup écrit sur ça.
Oui, c'est assez... Alors évidemment, quand je disais ça à Washington, les soutiens d'Obama s'évanouissaient de faire un parallèle entre Trump et Obama. Mais lorsque vous regardez leur politique étrangère, elle n'est pas si différente de ça. Les deux hommes qui connaissaient bien le pays ont compris qu'il y avait dans l'opinion publique américaine une lassitude des interventions étrangères. Et donc vous avez eu un Obama qui n'est pas intervenu en Ukraine, qui n'est quasiment pas intervenu en Syrie, et cela aucun président américain depuis 1945 ne l'aurait fait. Donc c'est une constante, les Américains sont là d'être les gendarmes du monde et ne veulent plus l'être. Et ceux qui pensent que après Trump, que le nouveau président reviendra comme la politique habituelle, comme elle a été menée pendant 50 ans, se trompe. Les États-Unis se retirent du rôle de gendarme du monde.
C'en est fini, c'est pas cyclique, ça va pas revenir.
Je pense, je peux me tromper, je pense que c'en est fini. Alors le prochain président sera plus poli et plus sophistiqué que Trump.
Mais ce sera
la même politique internationale. On le voit, par exemple, et nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire face à la Russie, d'abord la Russie ne va pas nous envahir, mais les États-Unis ne vont pas lâcher l'OTAN, mais par exemple, on le voit bien en Syrie, ce qui se passe à Idlib, c'est-à-dire 2 millions de réfugiés potentiels, des milliers de terroristes, eh bien, les Américains nous laissent faire. La Libye, moi j'ai passé 3 ans à essayer de convaincre les Américains de s'intéresser à la Libye, ils ne le cherchaient même pas sur la carte.
Donc c'est un rôle pour les Européens qui s'ouvrent,
veut dire que les Européens sont obligés de s'occuper de leur sécurité immédiate.
Gérard Haut, vous dressez un portrait au vitriol de Trump. Trump ne lit rien au point que ses amis proches pense qu'il est dyslexique, il passe des heures devant la télévision, devant Fox News où se déchaînent des commentateurs adeptes des théories du complot. Son narcissisme pathologique le fait évoluer dans une sphère cognitive qui lui est propre, ou si les faits ne lui conviennent pas, il en invente d'autres. Qu'avez-vous compris de Donald Trump? Est-il vraiment ce fou dégénéré qu'aime à le dépeindre l'establishment démocrate?
Alors, c'est une bonne question. D'une certaine manière, ma réponse serait de dire « oubliez Trump », et c'est ce que j'essayais de dire aux démocrates, et demandez-vous pourquoi il a été élu. Parce qu'il y a beaucoup trop de démocrates qui pensent encore qu'il a été élu par hasard, par les Russes, ou parce que Hillary Clinton était une mauvaise candidate. Il a été élu parce qu'il a été le seul à comprendre qu'il y avait une rébellion profonde d'une partie des Américains. La moitié des Américains ont leur niveau de vie qui a stagné depuis 30 ans. C'est simple. Et donc, c'est ces gens-là qui se sont révoltés, qui ont considéré que le système était un système qui ne s'intéressait plus à leur propre malheur.
Qu'est-ce que vous pensez de la procédure de destitution qui a été déposée par les démocrates? Est-ce que c'est un cadeau fait à Trump à un an de la présidentielle?
Je le crains. De toute façon, d'abord, ça va aller nulle part, puisque le Sénat, évidemment, ne votera pas la destitution. Il est de majorité républicaine. Et ça va permettre à Trump d'apparaître comme le martyr. Et c'est pour ça que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a résisté jusqu'au bout à lancer cette procédure, mais à partir d'un certain moment, face à la fureur de l'opinion publique sur l'affaire ukrainienne, elle n'a pas pu résister.
Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, chez les démocrates, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se distingue ou il y a encore un immense problème d'incarnation face à Trump?
Alors, non, ce qui est formidable dans le système américain, si vous voyez apparaître des gens que nul ne connaissait auparavant et qui peuvent devenir d'un seul coup président des États-Unis, c'est-à-dire la personne la plus puissante du monde. Pour le moment, vous avez Biden qui est là parce que c'est le plus connu, mais sa candidature est quand même un peu faible. Il est assez âgé, il a parlé dans un débat, il a parlé de tourne-disque, ce qui évidemment a suscité une certaine... Enfin, moi, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Mais, et plus
Elizabeth Warren.
Elizabeth Warren, voilà.
Vous pensez qu'il faut la suivre?
Il faut la suivre.
Vous décrivez Barack Obama comme un technocrate très impérial, charismatique mais lointain. Vous racontez la haine qu'il a subie à la fin de son mandat, Obama, et vous comparez cette haine tout aussi virulente et irrationnelle, dites-vous, à celle subie par Emmanuel Macron pendant les Gilets jaunes. Vous faites d'ailleurs un parallèle entre les deux hommes, entre Obama et Macron. Vous dites qu'ils partagent la même confiance dans la raison en un temps où règnent les passions. Ils ont aussi la même difficulté à sortir d'eux-mêmes pour suggérer l'empathie à leur opinion publique.
Oui, c'est assez curieux parce que Obama, vu de France, on ne sentait absolument pas à quel point c'est un solitaire, introverti, qui n'avait pas d'amis, qui tous les soirs dînait avec sa femme et sa belle-mère. Moi, très souvent, les dirigeants démocrates se plaignaient devant moi qu'ils ne le rencontraient jamais.
Et vous voyez le même parallèle avec Emmanuel Macron ?
Je pense que il y a évidemment des différences, mais je suis frappé quand même qu'Emmanuel Macron, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas sa politique, c'est un centriste quand même, et de voir qu'un centriste comme Obama puisse soulever de telles haines, cela, je pense, correspond à une même réalité. Ce sont des hyper-réalistes face à un monde de passion.
Voilà, le livre s'appelle « Passeport diplomatique », c'est chez Grasset. Vous auriez pu appeler ça « Un ambassadeur ne devrait pas dire ça ». Mais je vais éviter le jeu de mots facile puisqu'on a François Hollande qui arrive dans une demi-heure à votre place. Juste vous dire, conseillez vraiment vivement aux auditeurs de se procurer votre livre s'ils veulent comprendre de l'intérieur ce qui se joue en ce moment dans le monde avec les populistes et avec Trump. Merci Gérard Haro. Et belle journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci Excellence, merci Léa. Rendez-vous donc à 8h20 avec François Hollande.